France Culture.
Et c'est reparti pour les Midis de Culture. Bienvenue à toutes et à tous. À 13h, comme promis, on discutera avec la metteuse en scène Lucie Berelovitch. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Alors Marie, quelles sont les nouvelles de la culture? Bonjour déjà.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Et bien depuis quelques jours, le hashtag 11 mars je lis apparaît un peu partout sur les réseaux sociaux. Et c'est à l'initiative du CNL, le Centre National du Livre, accompagné de nombreux partenaires, dont le ministère de l'Éducation nationale, que chaque année est lancé cette opération. Pour célébrer la lecture. Alors, le quart d'heure de lecture nationale a un objectif, que chacun intègre dans sa vie au moins 15 minutes de lecture quotidienne. De nombreuses manifestations dans les librairies et bibliothèques notamment sont prévues toute la journée, avec comme mot d'ordre cette année, éteignez votre portable, allumez votre cerveau, lisez. Luce Albert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en littérature à l'Université d'Angers. Vous pilotez la chaire Éloquence avec notamment la Comédie Française et l'Institut de France. Et vous êtes l'une des quatre ambassadeurs de ce quart d'heure de lecture, opération nationale qui veut sensibiliser à l'importance de la lecture. Alors comment faire pour que ce ne soit pas simplement une opération de communication? Comment susciter un désir durable de lecture? Est-ce que vous avez des conseils?
Oui, c'est le sujet en effet, hein, parce que ce quart d'heure de lecture, c'est très important, parce que d'abord, ce quart d'heure de lecture a de plus en plus de succès. 70% des jeunes le connaissent, les entreprises maintenant l'ont mis en place. Cela signifie déjà que le livre et lire ensemble, hein, lire en société, cela a du succès et c'est une bonne nouvelle. Que faudrait-il faire pour lire davantage?
Oui, ou que le désir soit durable, parce qu'évidemment, sur des opérations événementielles, on voit bien l'intérêt que ça peut avoir quand on est jeune de participer à un événement. Mais comment faire pour que ce désir reste?
Mais je crois qu'il y a un petit peu une décision collective à prendre, c'est-à-dire que effectivement cet engouement pour l'excitation ponctuelle suscitée par cet événement doit se prolonger, doit nous faire prendre conscience qu'en réalité collectivement il faut qu'on reprenne nos livres, qu'on réorganise peut-être d'autres moments et puis que l'on se replonge dans ce plaisir que cela nous procure et que du coup on suscite des moments ensuite jour après jour, peut-être un peu sanctuarisés, vous voyez le moment du coucher, qui normalement est toujours un moment de lecture avec les enfants, par exemple, devrait devenir pour nous adultes aussi un moment de déconnexion, de repos et de réflexe. On prend son livre. Je pense qu'après, c'est à la fois quelque chose d'un peu collectif et puis à la fois une sorte de responsabilité personnelle de se dire, mais oui, c'est tellement agréable, tellement sympathique, et de commencer à en parler tous ensemble le lendemain, le surlendemain, etc., et de recréer un petit peu ce plaisir de la lecture que l'on avait et qui, l'air de rien, s'est beaucoup étiolé ces dernières années.
Alors, vous parliez de plaisir, mais on sait aujourd'hui que lire, ça provoque des bienfaits, j'entends même physiquement et mentalement.
Mais oui, moi je sais que si vous lisez 6 minutes, c'est rien du tout, hein, vous voyez, mais d'une lecture profonde, eh bien ça va calmer votre stress de 60%. Donc, vous voyez, c'est presque plus efficace que la musique ou que le yoga qui nous est si cher aujourd'hui. Donc, les effets, je dirais, sont multiples. Les effets de la lecture, les effets bénéfiques de la lecture sont multiples. Ce dont je viens de vous parler, c'est un effet qu'on pourrait appeler thérapeutique. Mais vous savez que cet effet thérapeutique, ça fait bien longtemps qu'on le connaît. Quelqu'un comme Rabelais, au XVIe siècle, écrivait avec l'humour qu'on lui connaît dans les préfaces de ses textes, hein, Pantagruel, Gargantua, en plaisantant, il disait « Prenez mon livre, vous qui avez des rages de dents, mettez-le sur votre joue et vous verrez, vous n'y penserez plus. » Évidemment que c'est pour nous faire rire, mais Rabelais était médecin. Donc Rabelais savait les bienfaits, quels étaient les bienfaits physiques, thérapeutiques de la lecture. Ils sont multiples, on peut en parler évidemment, de s'évader, d'oublier. Rabelais en parle très bien aussi de ça. Oublier la difficulté du quotidien, c'est un antidépresseur naturel, sans effet secondaire. Vivre des vies, voyager, rencontrer des amis qu'on n'aurait jamais rencontrés sinon. Les auteurs qu'on rencontre par la lecture, ce sont pour la plupart du temps des personnes qui soit n'ont pas vécu à notre époque et que l'on n'aurait jamais rencontrées, soit des personnes lointaines. Donc les bienfaits de la lecture sont multiples. On parle des bienfaits thérapeutiques, mais si vous voulez, on peut aborder toute une cascade d'autres bienfaits.
On dit aussi souvent que devenir lecteur, c'est devenir libre. Comment vous expliquez ce parallèle-là?
Ah oui, j'y tiens beaucoup. J'en parle souvent à mes étudiants de cette liberté que provoque la lecture. En réalité, la lecture nous permet, je crois, par la longueur de temps qu'elle suppose, par l'ouverture d'esprit qu'elle suppose, eh bien, elle est tout sauf l'enfermement. Vous voyez, elle provoque une ouverture de notre esprit qui ensuite permet à notre esprit de construire une pensée qui est singulière, qui arrive à maturité et qui parvient du coup à s'exprimer par le lexique acquis, mais aussi par cette singularité acquise et cette longueur de temps à élaborer ces raisonnements. Eh bien, du coup, cette pensée qui advient nous est vraiment propre, nous en sommes fiers, l'air de rien, sans s'en rendre compte, vous voyez, et nous nous sentons libres et parfaitement sûrs de nous quand nous avons envie d'avoir une opinion, d'élaborer un raisonnement, de se baser sur des lectures que nous avons eues. Voilà, je crois vraiment que cette liberté, elle est issue de ce travail qui ne se sent pas, vous voyez, qui est vraiment tout naturel, qui se fait sans douleur et qui nous permet ensuite à nous d'être créatifs, d'avoir acquis une sorte de fond culturel sans douleur et sans effort, et qui nous rend parfaitement sûrs de nous. À cet égard, je pourrais donner l'exemple de Montaigne. Pardon, je suis spécialiste de la Renaissance.
Ah, je vous en prie.
Souvent mes exemples au XVIe siècle. Mais vous voyez, un auteur comme Montaigne, que fait-il dans ses essais ? Les essais, qu'est-ce que ça veut dire, le titre ? Ça veut dire qu'il s'essaye. Et il nous dit, je vais m'essayer contre ou avec tout un tas d'auteurs anciens et contemporains et avec tout un tas d'idées. Voilà. Et donc Montaigne s'essaye sans cesse contre Platon. Parfois, il dit, oh, mais moi, je l'avais pensé avant, j'ai pas eu besoin que Platon me le dise, donc moi aussi, j'ai dit ça. Vous voyez, il a une forme de confiance en lui parce qu'il a fréquenté par la lecture tous ces auteurs, toutes ces pensées en marche, et il a décidé de ne pas être d'accord avec Cicéron quand Cicéron dit qu'il faut introduire son propos. Montaigne dit non, moi je préfère la viande crue, je préfère aller directement au sujet, je veux pas d'introduction. Et puis il décide d'être d'accord avec d'autres. Vous voyez, voilà, c'est cette liberté qui lui est donnée par la fréquentation comme ça, de tant d'expériences, de tant de raisonnements. Eh bien, il arrive à affermir le sien, à en être fier, sans en être non plus orgueilleux. Vous voyez, Montaigne change d'avis et le dit. Voilà, donc je crois que c'est cette liberté qui est procurée par la lecture, elle vient peut-être de là.
Dernière question, rapidement, vous évoquiez vos étudiants, parlez de l'histoire avant de se coucher avec les enfants, mais est-ce qu'on peut devenir un lecteur une fois adulte ?
Mais j'aime à le croire. J'aime à croire que nous sommes perfectibles à tout âge et que donc, si nous sommes passés à côté de la lecture parce que nous n'étions pas dans un milieu où nos parents lisaient, où nous étions entourés de lecteurs, mais que nous le découvrons à l'université ou plus tardivement, eh bien, je suis certain que nous deviendrons boulimiques pour rattraper ce temps perdu. Vous voyez, là, j'ai un étudiant qui se reconnaîtra, qui est en master, qui fait son mémoire sur Montaigne, précisément avec moi, et qui m'a dit, madame, et probablement vient d'un milieu où on lui a peu donné l'occasion de lire. Et il m'a dit, madame, j'aime tellement lire, j'aime tellement mes études que je vais prendre un an sabbatique entre mon master 1 et mon master 2 pour me remettre à niveau de tout ce que je n'ai pas lu et dont je me rends compte que j'ai besoin de le lire. Ça m'a fait un effet, vous voyez, je me suis dit, mais c'est extraordinaire.
Une année à lire, on en rêve en fait.
Une année à lire. Vous voyez comment on passe du quart d'heure de lecture à une année de lecture. C'est magnifique.
On va se quitter sur ces mots. Merci beaucoup, Luce Albert.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, Laurence Bloch est chargée d'une mission d'accompagnement sur la réforme de gouvernance de l'audiovisuel public.
Oui, selon le ministère de la Culture, l'ancienne directrice des antennes de Radio France doit, je cite, « contribuer à la réflexion sur la mise en œuvre des coopérations, les possibilités nouvelles et concrètes de coordination et en particulier les possibilités de renforcer la visibilité des offres de services publics ». Ce choix est censé rassurer ceux qui craignent que le projet de holding chapeautant Radio France, France Média Monde, France Télévisions et l'Institut national de l'audiovisuel se fasse au détriment de la radio. Aucune date n'est encore fixée pour l'examen du texte qui doit sceller leur sort.
les mesures du plan de lutte contre les VHSS dans la culture se précisent.
Oui, la ministre de la Culture, Rachida Dati, vient de détailler plusieurs mesures visant à lutter contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels. Par exemple, toute demande d'aide au projet faite par une structure culturelle devra préciser son cadre de lutte contre les VHSS. Le ministère insiste également sur la responsabilité des présidents d'associations centrales dans le monde culturel. Dans l'ensemble, de nombreux secteurs tels que l'archéologie, les festivals ou encore les musées devront étendre la formation et la prévention face à ces violences.
Et pour finir, Marie, une nouvelle parution ce printemps.
Ce 21 mars, vous pourrez retrouver le quotidien en ligne AOC, au sujet long et fouillé, dans les kiosques et les librairies, fort de son succès grandissant. Le site, qui propose tous les jours 3 contributions d'experts sous forme d'analyse, de critique ou d'opinion, se lance dans cette aventure risquée en période de crise de la presse papier. Dans chaque numéro de ce trimestriel à paraître en début de saison, une vingtaine d'articles seront consacrés à une thématique. Le premier se penchera sur l'intelligence artificielle.
Et merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h passé de quelques secondes et vous êtes sur France Culture.